Bonjour, aujourd'hui, Léonard de Vinci. La peinture est un poème qui se voit. Léonard de Vinci. Deux mille ans d'histoire. Comme la plupart des artistes de la Renaissance, Léonard de Vinci était polyvalent. Peintre, mais aussi sculpteur, architecte, urbaniste, ingénieur, musicien, passionné par les mathématiques et la géométrie pour lesquelles, disait-il, il aurait volontiers abandonné son pinceau. Il a aussi dessiné, quatre siècles avant leur invention, des machines que personne n'avait encore imaginées, des avions, des sous-marins, des automobiles et des chars d'assaut. Et pourtant, de ce touche-à-tout de génie, on retient surtout la douzaine de peintures qu'il nous a laissées et ce sourire extraordinaire qui a fait d'une Italienne inconnue une des femmes les plus célèbres du monde. La Joconde, dont le portrait au musée du Louvre, a vu défiler devant lui des millions de visiteurs depuis son achat par François Ier il y a 500 ans.
Je vais moi-même y prendre et vous le présenter, le plus beau des portraits qu'il y ait sur la terre. Apprêtez-vous à vous trouver devant le plus merveilleux des sourires. Je l'ai payé 12 000 livres à son auteur. Peu de femmes m'ont coûté aussi cher qu'elle. Elle a pour nom Mona Lisa. Mais nous l'appellerons, s'il vous plaît, la Joconde. Ainsi donc, la Joconde est au Louvre. C'est bien, nous interdisons désormais qu'elle en sorte. On la surveille. Et que l'on veille à toute porte.
Et la Joconde est toujours au Louvre, 500 ans après avoir été achetée par François Ier. Sophie Chauveau, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que quand on pense à Léonard de Vinci, quand on parle de lui, c'est le plus souvent du peintre que l'on parle, alors qu'il était aussi sculpteur, architecte, ingénieur, inventeur de machines incroyables à l'époque. Vous le rappelez dans un livre, dans un roman, L'Obsession Vinci, qui a été publié aux éditions Télémaque. Alors à cette époque, vous le dites, c'était pas tellement surprenant. Beaucoup d'artistes de la Renaissance étaient aussi polyvalents que Vinci.
Oui, parce que c'était encore des artisans, ils étaient encore considérés comme des artisans. Et dans Florence, notamment, qui a 50 ans d'avance sur toutes les cités italiennes, les ateliers des artistes s'appellent pas des ateliers, mais des bottegas, c'est-à-dire des boutiques. On pousse la porte d'une boutique et on commande une bannière, on commande un drapeau, on commande un bijou, parce qu'ils sont orfèvres aussi. On commande quelque chose de sculpté en bois, quelque chose en pierre, un tableau. On peut tout commander et tout le monde sait tout faire.
Mais pour ça, il fallait avoir envie de tout faire. D'où vient cette espèce de curiosité? Je crois que l'obsession Vinci, hein, c'est le titre de votre livre, c'était justement la curiosité.
C'est l'obsession de comprendre, de démasquer comment ça marche les choses, comment ça marche la terre, les animaux, les humains, les sentiments, le pouvoir. Il veut tout comprendre.
Les oiseaux.
L'œil, comment ça marche l'œil, parce que c'est très important l'œil pour un peintre. Donc il va passer des années à travailler sur l'œil. Il n'y a pas de phénomène naturel ou compliqué entre humains qu'il n'ait tenté de démasquer, de dévoiler.
Parce que s'il se passionne, par exemple, pour l'anatomie, notamment pour la circulation du sang, c'est qu'il n'imagine pas pouvoir peindre quelqu'un sans savoir ce qu'il y a même dessous, ce qu'on ne voit pas sur sa peinture.
Il est le premier peintre à imposer de faire des anatomies pour comprendre et pour faire le circuit des muscles et des nerfs. Et il va être sans doute, et ça c'est à peu près certain, le premier à faire les plus justes anatomies que des médecins du XXe siècle vous disent. Il n'y a rien à dire à ça.
Alors cette curiosité, elle vient, vous l'avez dit, de l'atelier. Tous les peintres commençaient comme ça, par un atelier d'artistes. Alors en l'occurrence, c'était Verrocchio, c'était pas n'importe qui.
C'est le meilleur.
Et c'est là qu'il a appris, au fond, la curiosité de tout. Par exemple, Verrocchio, en tout cas cet atelier, s'était occupé de ce qui était une révolution pour l'époque. C'était la coupole de la cathédrale de Florence, Santa Maria del Fiori, qui était une révolution à l'époque.
Le dôme est une révolution. Dôme, quand il est conçu au début du siècle, 1412... Quand il est conçu, dessiné, d'abord il y a Brunelleschi qui va gagner le concours et puis qui va se vexer parce que quelqu'un d'autre va le faire. Et C'est une histoire, quasi un incident diplomatique, c'est très drôle. Finalement, on va réussir à poser ce dôme qui est une révolution dans l'architecture et il manque la lanterne du dôme. Et donc, pendant 50 ans, on va attendre que quelqu'un soit capable de faire la lanterne du dôme. Et ça va être Verrocchio. Et tout l'atelier de Verrocchio va y contribuer. Et tout le monde va s'amuser à le calculer. Et comment on monte l'échafaudage. C'est un enjeu important à l'époque.
Même chose pour les peintures qui sont commandées à Verrocchio, mais auxquelles participent tous les artistes qui travaillent. Il y avait Botticelli en même temps, d'ailleurs.
Non, il n'est pas à l'atelier de Verrocchio, c'est une erreur historique, absolument. Botticelli est dans l'atelier de Filippo Lippi.
Et il y avait donc Vinci, en tout cas.
Oui.
Si bien qu'il est assez difficile de savoir ce qu'a peint Vinci dans ses peintures attribuées à Verrocchio.
Alors, on le sait un peu, puisqu'à partir du moment où Vinci va faire un petit ange qui est à gauche dans le baptême de Jésus-Christ, je vous le situe bien, Verrocchio veut dire « je peins plus, c'est lui le meilleur ». Et donc, les tableaux qui seront commandés à Verrocchio seront de la main de Vinci, éventuellement aidés de Lorenzo Di Credi et de quelques autres grands peintres de l'atelier Verrocchio. On ne fait rien tout seul, c'est vrai.
Alors tout ça, bien, ça se passe à Florence, cet atelier est à Florence. Il va quitter Florence, il a travaillé pendant 6 ans dans cet atelier.
La formation dure 6 ans.
Ouais. Et pour être envoyé donc à Milan, dont le duc Ludovic Sforza, dit Ludovic le Mort, était surpris par les plans des machines avec lesquelles Léonard de Vinci était venu dans le duché en 1482.
Messire Leonardo da Vinci, qu'est-ce là?
C'est une catapulte. C'est un système nouveau que j'ai inventé. Vous voyez, en déplaçant le mécanisme de fermeture et en suivant les lois de la balistique, on peut obtenir une trajectoire absolument précise. D'une portée de plus de 900 pieds.
Et ça, qu'est-ce que c'est?
Une chose volante.
Oui.
Qui pourrait nous transporter sans poser le pied par terre jusqu'au cœur de Saint-Pierre.
Vous êtes l'homme qu'il me faut, messire da Vinci. À partir de maintenant, vous êtes mon grand ingénieur et mon conseiller de guerre.
Monseigneur, je suis peintre, je ne suis pas homme de guerre. Tous ces croquis ne sont que des distractions, des rêveries, des hypothèses.
Et que croyez-vous que soit la guerre, sinon une énorme rêverie? Messire da Vinci, nous allons rêver ensemble. Et pour longtemps, croyez-le.
Dunque piangiamo, ho scolso la parierà, che più non si conviene, l'usa tocca.
Dunque Piangiano, c'est une chanson de l'époque de Vinci par l'ensemble Cyrinou, et alors avec un instrument, accompagné d'un instrument que l'on entend bien, la lyre, que Vinci avait fabriqué lui-même. C'était le prétexte de son arrivée à Milan, Sophie Chauveau.
Oui,
il venait avec une lyre, parce qu'il était musicien en fait.
Alors, il est improvisateur, donc on n'a aucune partition de Vinci. On sait qu'il improvisait, qu'il chantait très bien, qu'il avait une capacité à animer les fêtes, à faire danser les gens, à créer une ambiance absolument géniale, il paraît. C'est ce que les chroniqueurs de l'époque disent. Donc, il s'accompagnait, il chantait, il faisait danser des gens qui dansaient, des vrais danseurs, pas des danses mondaines. Il était très capable de rebondir, c'est-à-dire de répondre à d'autres musiciens, au point qu'il va gagner un concours l'année où il arrive à Milan, dont le héros est quand même Josquin des Prés, qui est le plus grand musicien de l'époque. Donc même par lui, Vinci est reconnu comme musicien. Donc c'était pas de la gnognotte, Vinci, c'était vrai.
Vinci,
même
musicien,
si on n'a pas gardé l'ombre d'une partition.
Vinci musicien, Vinci également peintre, Vinci sculpteur, parce que l'œuvre la plus importante qu'on attend de lui, parce qu'en fait on ne la verra jamais, c'est une statue équestre en bronze gigantesque qu'on lui avait commandée.
Alors en fait, tous les artistes italiens rêvent d'être nommés pour faire cette statue. Cette statue est un hommage que le duc Ludovic le Mort de Sforza veut rendre à son père, qui était un condottieri et qui a gagné en épousant une Visconti, le duché de Milan et la Lombardie entière, qui est un état très riche. Et donc, à cause de quoi, il veut faire un mausolée à son père, une statue équestre, la plus grande du monde. La plus grande du monde, c'est 9 mètres de haut, c'est 70 tonnes de bronze à couler. Donc il va falloir rassembler le bronze. Déjà, Vinci va mettre des années à dessiner un cheval cabré avec un cavalier qui puisse tenir sur un socle. C'est un enjeu considérable. Tout le monde dit qu'il n'en est pas capable. Et une fois qu'il en est capable dans la forme du modèle en plâtre, on n'a pas de four pour couler d'une seule pièce. Donc il faut construire les fours pour couler le bronze. Donc, c'est une folie absolue. Et le jour où, enfin, on a les fours, on a le bronze, on a le modèle, la guerre éclate et on transforme les 70 tonnes de bronze en boulets de canon.
Et on ne verra jamais cette
statue. Heureusement, on a les croquis. Équestre. On a tous les croquis préparatoires que Vinci a fait dans ses carnets. Donc, on a une idée vague. Et puis, quelqu'un l'a réalisé depuis, mais au 19e siècle.
Mais qu'est-ce qu'il a laissé comme sculpture, puisqu'il était sculpteur ? Rien du tout.
Rien.
Et il en a fait.
On parle beaucoup de petites sculptures, genre Tanagra de terre. Alors, évidemment, la terre se casse. Il aurait laissé des choses, mais on n'a aucune trace. On a quelques biographes au XVIe siècle, c'est-à-dire encore pas loin de lui, qui en parlent, mais après on n'en parle plus jamais.
Alors musicien, sculpteur, peintre, urbaniste aussi. Je crois que c'est à Milan qu'il propose justement à Ludovic Lemort un projet de cité idéale.
C'est-à-dire qu'il y a une peste à Milan un jour. Bien sûr, tous les artistes, tous les grands, tous les gens qui ont les moyens vont à la campagne pour passer le temps de la peste. Et pendant ce temps-là, Vinci se dit « mais c'est pas possible qu'on meure comme ça ». Donc il faut faire toutes les choses subalternes en sous-sol et toutes les grandes choses dehors, sur un premier étage, une ville à deux étages. Et il se met à rêver pour juguler la peste. Il y a quand même toujours un projet humaniste chez Vinci, c'est ça qui est intéressant. Et fraternel, c'est toujours dans l'entraide. C'est pour ça que c'est un personnage très attachant aussi. C'est qu'il a envie de faire du bien, quoi. Il voit des femmes en train de coudre, il invente une machine pour enfiler les aiguilles. C'est hallucinant, parce qu'il n'a aucune raison de se pencher sur les aiguilles. Il voit comment on fait pour les pressoirs d'olive, il se dit mais comment on fait pour les pigments dans les ateliers, et hop, il intervertit les techniques. Il a ce côté comme ça, cette polyvalence et cette curiosité qui fait qu'il mélange tout. Mais il mélange tout dans un but qui est toujours quand même faire du bien.
Alors, il peint hein, quand même. Il a essayé très peu de peinture, en tout cas.
Il peint, je rigole.
Mais alors, la Vierge au Rocher, la Dame à l'Hermine, c'est magnifique d'ailleurs ces tableaux. La Belle Ferronnière, la Seine aussi. Alors ça, c'est un projet aussi tout à fait gigantesque. C'était pour un couvent qu'on lui commande. La Seine.
Oui, c'est un peu pour le dédommager du grand cheval qui ne verra jamais le jour, qu'on lui commande une des plus grandes fresques. C'est 18 mètres sur 8 mètres, c'est énorme la Seine. Le problème, c'est qu'on croit lui faire plaisir et que Léonard est un lent. Il ne sait pas peindre à fresque. Mmh. Il ne sait pas travailler sans repentir, c'est-à-dire sans revenir plusieurs fois sur le même motif, sur la même couleur. Donc il y a un énorme problème. À fresque, on est sur un mur de plâtre frais, l'enduit rentre immédiatement dans le mur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il réinvente une technique catastrophique parce qu'il met de l'huile sur le plâtre frais et que, avant sa mort, la Seine sera déjà en train de s'autodétruire. Ce qui est une sorte de catastrophe absolue, parce que c'est sans doute un des plus beaux tableaux de Vinci, sans doute dans la construction, dans la géométrie des couples par trois autour du Christ. Et c'est la première fois dans l'histoire de la peinture qu'on présente le Judas de face, puisqu'il est avant d'avoir trahi, donc on n'a pas de raison de le faire de dos. Ce qui est une logique léonardienne, ça, tout à fait.
Alors, il va rester quand même, il est resté très longtemps, 17 ans à Milan auprès de Ludovic Lemort, et puis finit par quitter la ville, bien sûr, quand elle est prise par les Français.
Alors, ne croyez pas ça, pardonnez-moi de vous interrompre là, parce qu'il y a chez Léonard de Vinci un sens du renégat qui est absolument fabuleux.
Ah bon ?
Il sert un maître, il en sert un autre, il s'en fiche. Les Français arrivent, il reste avec les Français. Et c'est quand Ludovic reviendra qu'il a peur d'être puni par Ludovic, parce qu'il a été grosso modo un collabo. Les Français l'ont adoré. Il y a trois rois de France qui se sont mis à genoux devant Léonard de Vinci. Et les Français vont le faire travailler. Et il va beaucoup travailler pour les Français. Il va adorer travailler pour les Français qui le respectent beaucoup plus et bien davantage. Donc en fait, c'est pour fuir le retour de Ludovic qu'il va devoir quitter Milan.
Et ça commence pour lui ce que vous appelez, Sophie Chauveau, les années nomades, hein, qui vont le conduire à Venise, à Rome, à Florence ou encore à Urbino, où il rencontre César Borgia.
Le seigneur Leonardo da Vinci est arrivé, votre grâce.
Oh, tu vas voir, César, c'est peut-être le plus grand peintre de notre époque. Il vient de Florence. C'est ce pauvre Sforza qui m'en a parlé.
Ah, messire da Vinci, quel plaisir de vous voir. Alors, montrez-moi les plans que vous avez faits. Ce profil est admirable. Quelle sûreté de dessin. Vous aimez les gens, n'est-ce pas, Leonardo ?
Ah, Leonardo !
César, il faut connaître les gens pour les conduire. Toi, tu crées. Moi, je détruis. Tu éclaires des paysages, moi je les fais flamber. Tu donnes la vie à des hommes, moi je la leur retire. Cela est une grande différence, mon cher Leonardo.
Alors étrange cette amitié, ce Fichauveau, entre l'artiste Léonard de Vinci et cet homme de guerre qui était César Borgia, qui n'a pas été vraiment un mécène, mais il est resté auprès de lui. En tout cas, ça a joué un grand rôle dans sa vie à Vinci, cette rencontre.
Alors c'est 11 mois de sa vie, c'est pas grand-chose. Et en même temps, c'est une rencontre au sommet entre deux géants. Je crois que la réputation de César Borgia est très usurpée aujourd'hui, qu'on en a fait une espèce de criminel. Et je crois que c'est un magnifique guerrier, c'est un grand... stratège. C'est un Napoléon.
C'était le prince de Machiavel. Hein,
c'est le prince de Machiavel.
C'est celui qui a inspiré le prince.
Après, donc en même temps, Machiavel envoie Léonard pour espionner César, pour avoir des informations techniques sur la guerre que mène César. Et il y a vraiment chez César une grandeur. Il dit, sa devise, c'est « guerre au château, paix aux chaumières ». C'est-à-dire, il rend aux petits, il prend aux grands. Ce qui est quand même très, très révolutionnaire à l'époque. Donc, il y a une sympathie entre ces deux géants, qui sont chacun dans leur genre des grands artistes, et qui vont se reconnaître.
Alors, d'où l'intérêt aussi de César pour toutes ces machines qu'invente Vinci. Quelle est la réalité? Parce que c'est vrai que sur ses dessins, on voit déjà des parachutes, on voit des chars. C'est assez étonnant quand même, cet artiste qui invente des choses que personne n'imaginait encore à l'époque.
Alors, j'ai peur de vous faire beaucoup de peine, là. Je suis un peu navrée de devoir le dire, parce que je l'ai découvert et j'ai été moi-même très, très étonnée. Vraisemblablement, il n'a rien inventé. Ses dessins sont sans doute des citations, ces machines.
Ah oui.
C'est ce dont on parle. Alors, on s'en parle, on se dit, et toi, tu le ferais comment? Et si tu devais faire voler un truc, tu ferais comment? Et si tu devais faire un sous-marin, tu ferais comment? Et alors, Léonard, qui est un passionné de comprendre, va chiader les dessins davantage, va aller plus loin peut-être, va pousser la recherche. La bicyclette, ils sont 50 à l'inventer en même temps. Personne ne la réalise, on n'a pas les matériaux. Et quand on va inventer la bicyclette, on aura totalement enfoui les dessins de Léonard, donc il ne nous aidera en rien avec ses dessins. Donc il n'apporte rien. Nous avons le plaisir aujourd'hui de découvrir ces manuscrits, mais on les a découverts longtemps après avoir inventé ces découvertes.
Parce qu'on en fait un visionnaire, justement, pour cette raison-là.
C'est une légende.
C'est une légende.
Ça fait partie des multiples légendes de Léonard. Donc je le dis sur la pointe des pieds, doucement, je sais que je déçois, mais non, il a rien
apporté. Mais pas du tout. Alors là, ce ne sont pas des légendes. Il va courir de ville en ville, on le voit à Venise. À Venise, il propose.
Non, il
propose,
on lui demande. Pour la première fois,
la
on
défense.
L'emploie enfin comme ingénieur militaire.
Oui.
Parce que pour la première fois dans l'histoire de Venise, qui est une histoire aussi assez compliquée politiquement, le Turc menace. Et si le Turc menace, il faut pouvoir défendre Venise, qui est indéfendable, puisque on connaît Venise, on voit bien que c'est une ville ouverte. Qu'est-ce qu'il va proposer? Et les Vénitiens ont échoué à proposer une défense de Venise. Et on demande à cet ingénieur militaire, dont tout le monde dit toujours que c'est un génie, c'est une des raisons pour lesquelles il fuit sans arrêt, parce qu'il a toujours peur de ne pas être à la hauteur de sa réputation de génie, comme tout le monde. Il est honnête quand même. Il ne se prend pas très au sérieux. Et donc, il va proposer un truc qui est impensable et qui est en même temps peut-être la seule solution, c'est de noyer les villes environnant Venise pour que le Turc aussi soit noyé s'il décide d'envahir. On va dire c'est très bien, c'est un projet génial, et on va pas le faire parce qu'à ce moment-là se mêle une défiance. Et si c'était un espion? Et s'il avait déjà vendu aux Turcs ces plans-là?
Oui, alors justement, qu'est-ce qu'il propose aux Turcs en même temps, enfin un peu plus tard?
Non, quelques années
plus tard. Il propose un pont à travers le Bosphore.
Oui, mais parce que Bajazet II, qui est le sultan à ce moment-là, cherche quelqu'un capable d'élaborer ce pont. Et tout le monde se propose, et Léonard va faire traduire en turc une lettre où il propose ses services... de se mettre comme esclave au service de Bajazet. Il écrit cette phrase-là, quand même, ce qui est hallucinant, malgré tout. Peut-être qu'on lui dit que c'est comme ça qu'il faut s'adresser à Bajazet, j'en sais rien. En tout cas, il envoie cette lettre, pas de réponse. Là encore, il en a trop fait. On lui demande de faire un pont, il envisage de faire le plus grand pont du monde. Et comme d'habitude, il en fait toujours un tout petit peu trop, ce qui est un côté à la fois sympathique et à la fois terrorisant, parce que c'est à cause de ça qu'il est souvent blackboulé.
Alors, autre passion inattendue, c'est la passion, mais vraiment la passion énorme qu'il a pour les mathématiques.
Oui, c'est un enfant qui n'a pas été élevé.
À quoi ça correspond? Je crois qu'il était autodidacte.
Il est totalement autodidacte. Ouais. On dit de lui que c'est un homme sans lettres, c'est-à-dire un ignorant, c'est-à-dire un homme qui n'a pas appris le latin. Il a appris, comme tous les Florentins, lire, écrire, compter, parce que si on tient la boutique, c'est les trois choses qu'il faut savoir. Point. Et donc, compter, c'est pas beaucoup. Et il a, lui, des vues. Il veut trouver la quadrature du cercle. Il veut inventer des machines pour lesquelles il a absolument besoin de la mathématique pure. Et il se lance dans... Il veut calculer les distances de la Terre au ciel. Enfin, il a un côté galiléen, quand même. Donc, fort de tout ça, il travaille comme un autodidacte. Et il rencontre un type qui vient faire une conférence un jour à Milan, qui est Fra Luca Pacioli, et qui va, en 2 ans, lui faire arriver à son propre niveau de grand scientifique, de grand savant, et être éberlué par la capacité qu'a Léonard d'apprendre. et de retenir et d'appliquer.
Alors, il continue de peindre quand même des peintures qui sont très ésotériques. Alors, c'est très visible sur le tableau qui est reproduit sur la couverture de votre livre, Sophie Chauveau. Alors ça, c'est un tableau très étrange. C'est Saint Jean-Baptiste, qui est un personnage très androgyne et qui permet de penser que c'était peut-être l'amant qu'avait eu Vinci 30 ans plus tôt à Florence, parce qu'il avait été accusé d'homosexualité, de sodomie, comme on disait, ce qui était très grave.
Moi, je ne vais pas l'accuser, mais je vais vous dire qu'officiellement, il était très homosexuel. Il avait un grand besoin sexuel, donc il avait des pratiques constantes. Que l'amant, que vous qualifiez d'amant d'il y a 30 ans, qui est effectivement le Saint Jean-Baptiste, puisqu'on a plein de dessins de son visage et le petit Salai, mais qui fut quand même pendant 22 ans son grand amour.
Salai, c'est qui était...
Salai, petit démon.
Oui. C'était son élève, disait-on, non ?
C'était son assistant, son élève, son giton aussi, parce qu'il a été officiellement quand même son amant, oui. On peut le dire comme ça.
Alors, autre peinture encore plus célèbre, celle dont on parle tout le temps, peinte à partir sans doute de 1503, la plus mystérieuse en tout cas de ces peintures, Mona Lisa del Giocondo, la Joconde. Alors écoutez cette archive étonnante, ce serait la voix de Léonard de Vinci lui-même, si on en croit en tout cas l'ingénieur japonais qui l'a reconstitué à partir d'un autoportrait. C'était peut-être comme ça que parlait Léonard de Vinci il y a 500 ans.
Sono Leonardo da Vinci. Ho creato la Mona Lisa. Lei è il mio grande capolavoro e non me ne separerò finché vivo. Nel suo sorriso ho nascosto un significato speciale, lasciando un grande mistero per le future generazioni.
Alors, une réaction sur cette voix, parce que vous vivez dans l'intimité de Léonard de Vinci, Sophie Chauveau, bon, certes, il est un peu vieux pour que vous ayez pu l'entendre, mais quand même, est-ce que ça correspond à votre avis à ce... Parce que je rappelle, c'est un ingénieur japonais qui a fait ça d'après un autoportrait très célèbre de Vinci, on le voit avec une barbe, il a une soixantaine d'années à ce moment-là.
Pas tout à fait, il a que 50 ans en plus. C'est l'homme de Vitruve, hein, c'est le magnifique avec sa barbe, c'est la sanguine.
Oui, mais je pensais que c'était tardive.
Non. Dans la datation, c'est 50, 52 ans. Mais très jeune, il fait vieux. Alors, en même temps, cette voix, peut-être qu'en vieillissant, on a tous la voix qui devient de plus en plus grave, mais les chroniqueurs célèbrent Léonard comme un très grand musicien, un très grand chanteur, mais surtout avec une voix très haute. Très haute. Et là, il a une voix très grave. Donc, c'est vrai que l'écart est énorme. Donc, moi, je veux bien croire que cet ingénieur japonais soit génial. Est très juste dans ses reproductions vocales, mais j'ai du mal. Là.
C'est celui qui est censé reconnaître la voix de Ben Laden, hein, quand on entend. Je parle de l'ingénieur.
Oui, j'ai bien compris que c'était pas Léonard. Moi, j'ai du mal à y croire.
Alors, c'est lui, c'est cet ingénieur qui fait dire, ce qu'on a entendu, on ne l'a pas traduit pour qu'on puisse entendre la possible voix de Vinci. Que disait Vinci ? J'ai peint la Joconde, j'ai peint Mona Lisa, et dans son sourire, j'ai dissimulé un mystère pour les générations futures. Alors, le mystère de la Joconde. D'abord, on ne sait pas très bien qui était reproduit sur cette peinture.
Si, maintenant, on le sait. Alors ça, en revanche, les derniers biographes sont assez clairs.
Mona Lisa del Giocondo, c'est
ça ? On a un marchand napolitain qui s'installe à Florence, qui est riche, et la mode arrive de se faire peindre, et quand on a une femme qui vous donne des fils, de la faire peindre, et il y a donc le portrait du monsieur et de la dame dans le salon de la maison patricienne. Donc ça, on sait qui c'est. C'est Giocondo, Gioconda, Lisa, puisque Mona, ça veut dire madame. Donc on appelle madame Lisa, ce qui est assez drôle, en fait, pour les Italiens.
Parce qu'on a dit que c'était peut-être la maîtresse de Julien de Médicis, que c'était peut-être même Léonard de Vinci lui-même qui se serait peint en femme.
Alors, il y a eu plusieurs Jocondes, tout le monde a fait sa Joconde, tout le monde a imité la Joconde du vivant de Léonard, et pendant que Léonard a pour modèle Lisa. Donc, elle pose tous les après-midi pendant 3 ans. Il se passe sans doute des choses très amicales entre eux, très fortes. Je crois qu'il y a quelque chose, réellement, parce qu'il fait venir tous les jours des musiciens, des acrobates, des jongleurs pour la distraire, pour qu'elle sourie, pour qu'elle garde ce sourire-là. Bon, et puis, il ne donne pas le tableau, il le garde. Il le conserve. Il a été payé par le commanditaire. Il ne le donne pas au mari. Il part avec. Il disparaît avec. Et il va continuer de la peindre. Alors, dans les mystères, parce que je crois qu'il n'y en a pas qu'un mystère du sourire de la Joconde, il y a le fait qu'il ait continué de la peindre pendant 15 ans. De rajouter des touches et de la caresser. Évidemment que ça n'est plus la Lisa du début. Elle va évoluer. Elle va sans doute se mettre à ressembler à Salai. Elle aussi. Les fonds vont changer.
À l'homme
qui est sur tous les derniers tableaux. Et le Saint-Jean-Baptiste est le tout dernier en datation carbone 14. Il n'y a pas de doute. Mais le Bacchus, c'est le même. Mais, Mais la Léda, c'est la même. Et la Léda, c'est aussi la Joconde. C'est-à-dire qu'on a des tableaux de la Joconde toute nue, par les copains, par les amis, par l'atelier. Donc on a plein de Jocondes.
Et avec ses doigts aussi.
Oui. Alors on a aussi des...
Il a fini, en fait.
On a les empreintes digitales de Léonard, parce qu'il a toujours fini tous ses tableaux au doigt. Il fait deux choses qui sont très surprenantes et très modernes pour nous aujourd'hui. Ces personnages sont toujours peints nus avant de faire tomber, pour qu'ils tombent bien, les vêtements sur les personnages, y compris dans la scène, ce qui va un petit peu scandaliser le couvent où ça se passe. Et il peint au doigt. C'est-à-dire qu'il barbouille avec son doigt. On a tous la tentation de... Vous voyez, bon, il fait ça. C'est un sensuel, c'est un très grand sensuel.
Alors ce tableau, quand même, il a fini par être acheté par le mécène, le dernier mécène de Léonard, François Ier, que Vinci rencontre en 1515, à l'année de Marignan. Et François Ier l'amène avec lui donc à Amboise, son château, ou plutôt à côté d'Amboise, à ce qu'on appelle le manoir du Clou, le Clos Lucé, où Vinci va mourir. Quel était, d'abord, pourquoi est-ce que Léonard le suit? Il est assez malade, il a été, je crois, hémiplégique, en tout cas, il a du mal à peindre à la fin. Quel était l'intérêt pour Vinci de venir en France et surtout l'intérêt pour la France de recevoir Vinci?
Alors, l'intérêt pour Vinci, c'est que si nous n'avions pas eu un roi de France suffisamment intuitif et attentif, Vinci serait sans doute mort dans la misère, en tout cas dans la mendicité. L'Italie l'avait totalement laissé tomber, était à Rome sous la protection de Léon X, le seul pape Médicis de l'époque, qui vraiment le traitait avec un immense mépris. Il était très malade, très malade de cette malaria, de ce mauvais air qui règne à Rome à cause des marais qu'il a tenté d'assécher, parce qu'il a d'abord tenté d'assécher les marais pontins quand il est arrivé à Rome. Il a attrapé la malaria. C'est vrai qu'il va un peu se paralyser du côté droit, mais on s'en fiche un peu parce qu'il est gaucher. Donc c'est pas si grave, pour nous en tout cas. Et François Ier, qui est salué à son départ pour sa conquête italienne par des Florentins à Lyon, avant les Alpes, va voir les automates de Léonard, qui vont lui faire une petite révérence, qui va le subjuguer, il n'en a jamais vu. Et donc, il arrive, il conquiert la Lombardie, donc en fait, on va un peu se prosterner devant le nouveau maître de la Lombardie, et qui risque de conquérir toute l'Italie, parce qu'il a un certain sens de la frappe. Et donc le pape emmène Léonard, en sachant que c'est un bon calcul, puisqu'il le réclame, et il lui dit, viens chez moi, viens apporter cette renaissance à mon royaume.
C'était une émission du 12 décembre 2007. Je signale que Sophie Chauveau est l'auteur de L'Obsession Vinci, publiée aux éditions Télémaque. À lire également Léonard de Vinci d'Alessandro Vesozzi aux éditions Gallimard Découverte, et puis la biographie de Léonard de Vinci de Charles Nicolle chez Actes Sud. Vous avez pu entendre des extraits du film Si Paris nous était compté de Sacha Guitry chez René Château Vidéo, ainsi que du téléfilm Les Borgia ou Le Sang Doré d'Alain Desnos, édité en cassette vidéo par Lina. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Jean-Noël Vélan et Serge Viguier. Documentation, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Comilac.